Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Bonjour Isabelle Job-Basile.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue. La peur du risque. Directrice des études économiques de Crédit Agricole et ça. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi.
Bonjour.
Président fondateur du Cercle des économistes et président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit Partage vertueux entre salaire et profit, croissance égale 2/3 de salaire et 1/3 de profit chez Economica. Je vous redonne la parole dans un instant pour évoquer un événement qui vous concerne aujourd'hui. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Le président d'Odoxa avec le baromètre AJP Challenge BFM Business. Comme chaque mois, cet après-midi, votre cher organise un événement, Jean-Hervé Lorenzi, dans les locaux de la SCOR, le réassureur, installé avenue Kléber, à côté de l'Étoile. C'est public. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'essayer de commencer à éclairer un déni absolu. Il ne vous a pas échappé qu'à juste titre, on parle heure par heure du changement climatique, de la décarbonation, des coûts ce que représente. On voit bien que de toute façon, on est en train de trouver un équilibre qui n'est pas celui qui était annoncé. C'est évidemment trop important. Mais le vieillissement est vraisemblablement plus onéreux, plus compliqué, plus difficile...
Que la transition verte.
Ce que la chaire a calculé, c'est que en fait, en 2030, c'est-à-dire demain matin, le coût du vieillissement, c'est 90 milliards de plus, une centaine de milliards de plus.
Que le coût actuel.
Que le coût actuel.
Dans le coût actuel, vous mettez retraite plus dépendance.
Plus spécifique.
D'accord. Ça veut dire qu'on est à 500 milliards par an de dépenses du vieillissement.
Que c'est absolument majeur. Alors, on va découvrir ça de manière... j'allais dire mondial, le vieillissement, c'est-à-dire le fait que l'âge moyen de la population augmente, c'est un effet, un impact qui est absolument déterminant sur l'ensemble des équilibres sociaux, politiques, économiques, mais d'abord et avant tout financier, la dépendance, mais personne n'en sait rien, peut-être qu'on va trouver des médicaments miracles sur notamment les maladies neurodégénérescentes.
Mais Neuralink va nous rendre éternels.
On l'espère. Mais l'ensemble, ça, plus les retraites. Vous avez parlé de la sous-indexation que le président a juste titre, et j'en remercie à titre personnel.
Il ne veut pas la faire, la sous-indexation.
Oui, il n'en veut pas. Donc, merci, monsieur.
Vous savez que je peux vous mettre des économistes qui vont vous dire qu'il faudrait carrément désindexer. Hein.
Non, on va pas ouvrir le débat. Je pense qu'il y a toute une série de sujets, notamment le fait que la dépendance pourrait être prise en charge assez largement par les traités. Donc il y a des tas de débats, mais n'oubliez pas ce chiffre, 90 milliards de plus par an. Alors que l'on dit que la décarbonation, ce serait le rapport Pisani-Ferry, c'est 66 milliards de mémoire par an. Donc c'est plus important, plus déstructurant d'une société, parce que je suis l'histoire du natalisme et présenté souvent comme quelque chose d'un peu d'extrême droite et tout. Non, une société avec des jeunes, c'est plus rigolo qu'avec des vieux comme moi, évidemment.
Je ne sais pas si c'est Nathalie. Enfin, le 90 milliards de plus en 2030.
C'est
ça veut dire que la facture des vieux, retraités et dépendants, c'est 500 milliards par an.
Bien sûr. Et n'oubliez pas, dernier point, donc on a cet après-midi...
C'est la chair du bien vieillir. Hein,
voilà, comment on rend les EHPAD plus humains, comment on finance tout ça, il y a tas de solutions.
Il faut mettre des animaux dans les EHPAD.
Voilà. Les animaux de compagnie, ça va être autorisé.
Mais ça a été un sujet.
Non, mais d'abord, il faut essayer de régler des sujets comme Orpea, qui était absolument monstrueux.
La bourse s'en est occupée.
Oui. Mais il y en a encore une autre qui a fait faillite.
Oui.
Enfin, c'est compliqué. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que, vous l'avez indiqué, les gens qui votent, ce sont plutôt les vieux. Mm-hmm. Et donc, lorsqu'il va falloir faire les choix entre la transition, environnementale et le choix sur le climat, où le vieux se dit, je serai plus là, et le choix sur les EHPAD, je pense qu'en tout cas, il y a une réflexion stratégique sur stratégie politique à regarder de très près, mais ça gagne.
Gaël va réagir. Vous avez vu ce que le Canada a décidé ? Ils ont décidé un moratoire de 3 ans sur la taxe carbone concernant les livraisons de mazout au Canada, parce que tout le monde râle. Et je ne pense pas qu'on va comme ça faire des moratoires sur les dépenses concernant les personnes âgées. Par contre, on en fait sur les engagements verts. Partout, ça recule dans tous les sens sur les engagements verts.
Je veux dire, un dernier mot, c'est que entre le discours qui était un discours légitime, sympathique, auquel j'adhère, qui est de dire on se fixe des objectifs qui sont en fait assez ambitieux de ralentir de manière très significative la hausse de la température, et ce que disait déjà M. Pouyanné, ça, il va falloir s'adapter, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On voit bien, on va tout à l'heure parler des logements et de l'aspect thermique des logements. On le voit bien sur les agriculteurs. Partout, il y a un équilibre qui se fait parce que une société, c'est un peu plus compliqué que uniquement la décarbonation.
Allez voir le dessin de CAC à la une de l'opinion aujourd'hui. Vous voyez Emmanuel Macron qui est là avec un panneau sans interdit, puis une ambulance qui arrive avec marqué transition verte. Et le panneau sans interdit, c'est pour laisser le temps de traverser au gars du BTP, à l'agriculteur. voilà. Ça vous faisait réagir notre histoire de...
Oui, bien sûr.
Non, parce que je trouve, effectivement, quand il va falloir arbitrer entre les dépenses concernant ceux qui ne seront plus là et les dépenses vertes, allez-y, gagnez.
Et le troisième, la troisième transition, ne pas l'oublier, le numérique.
Oui.
Si on veut mettre un paquet, si on veut être présent dans le numérique, il faut mettre, vous avez vu ce que font les Allemands, pour avoir Intel, ils mettent 17 milliards, l'État, il va falloir mettre 30, 40, 50 milliards par an. Non, là, c'est sérieux.
Pour l'instant, on cherche 30 milliards en deux ans. Oui. On va y revenir, hein, Gaël.
Jean-Hervé a ouvert un paquet de routes, là, un paquet de chemins.
Bah, d'ailleurs, je vais déchirer le programme de l'émission, puis on va parler d'autre chose.
Donc, il y a les sous dans les caisses. Il y a ce sujet qui m'intéresse et que je suis de près sur l'impact. Parce qu'on fait beaucoup d'études en santé à Odoxa, donc l'impact du vieillissement sur les sociétés et notamment sur la nôtre, juste comme ça, hein, on est à 13 ou 14% de gens en France qui sont des aidants familiaux. Ça veut dire, souvent des femmes d'ailleurs, qui s'occupent de leur papa ou de leur maman, qui elles-mêmes sont souvent déjà pas si jeunes que ça, les aidants ou les aidantes. On est sur des sociétés où on a de plus en plus de maladies qui sont liées au vieillissement, et donc évidemment ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, et après, si j'enlève ma casquette sondage santé publique pour mettre la casquette sondage politique, oui, c'est un vrai sujet ce que disait Jean-Hervé sur l'arbitrage à faire d'un pur point de vue cynique et électoraliste. Vous avez un scoop, hein, en 2022, la dernière présidentielle, si juste on avait fait ce qui a été envisagé à certains moments de l'histoire de France, on s'était dit, seuls les gens qui travaillent et donc qui ne sont pas à la retraite votent. Si on avait fait ça, si on avait dit, dès lors que vous arrêtez de travailler, que vous êtes à la retraite, vous ne votez plus, eh bien nous aurions Marine Le Pen comme présidente de la République.
Non, mais ça, je suis pas surpris. Mais...
Non, mais donc veut dire que, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Hervé, vous avez une vie politique française où le vote des seniors est très important. Alors, ce ne sont pas les plus nombreux, bien sûr, mais ce sont ceux qui, en proportion, votent le plus.
Oui,
alors qu'avec un taux de participation qui est massif, alors que chez les jeunes, selon les scrutins, on est souvent à moins d'un sur deux. Donc, vous avez tout intérêt à avoir les vieux, si j'ose dire, dans votre poche, plutôt que les jeunes, quitte parfois à parler de la jeunesse, parce que ça séduit beaucoup les seniors. Mais sur les sujets sur les sujets de vieillissement, de bien vieillir, sur les sujets de retraite, sur les sujets de pension, évidemment que l'homme politique ou le président de la République qui prendrait des mesures anti-vieux, entre guillemets, se verrait sanctionné très lourdement sur le plan électoral, et que Emmanuel Macron, par exemple, aujourd'hui, on voit Marine Le Pen progresser énormément auprès de l'électorat senior, comme dans toutes les catégories de la population, mais aujourd'hui, c'est encore celui qui résiste. C'est-à-dire que s'il n'y avait à l'inverse que les plus de 65 ans qui votaient, il serait réélu aisément.
L'événement, c'est cet après-midi, je lui donne la parole à Isabelle, bien sûr, c'est cet après-midi, la conférence du bien vieillir.
Voilà, 14h30 à la SCOR.
À la SCOR.
Avenue Kléber.
Avenue Kléber. Ce qu'on a dit là, Isabelle Jobasilus, que ça peut vous inspirer comme réaction?
Oui, peut-être des petites réactions.
Parce qu'il va falloir trouver les sous. Hein.
Enfin voilà, sur la dépendance, on sait très bien, on sait bien évidemment que c'est un sujet. Et en fait, il y a eu des initiatives privées, dans les assurances, notamment, de faire de l'assurance dépendance. Ça ne marche pas. On a beaucoup de mal.
Ça ne marche pas,
les produits.
Ça ne se vend pas.
Ça se vend très très mal. Alors peut-être que c'est aussi les assureurs qui ont peut-être du mal à parler. Enfin, ceux qui vendent le produit ont du mal à parler de la dépendance. Mais à tout le moins, il n'y a pas un intérêt très grand des clients pour s'assurer sur leur dépendance. Il y avait aussi l'idée de liquéfier les patrimoines immobiliers. pour justement financer la dépendance.
Ça veut dire vendre des biens immobiliers. Hein.
C'est un peu l'hypothèque, ouais, voilà, c'est les ça, idées. Enfin voilà, ouais. Et c'est pareil, c'est encore, ça a du mal à rentrer dans la culture et donc des difficultés à proposer des alternatives qu'un financement public possiblement.
Et moi je commence à croire à l'idée de Jean-Hervé. Hein. Au début, quand il me disait qu'il fallait mobiliser l'épargne comme elle était chez les personnes les plus âgées, il fallait une garantie sur les sommes engagées de l'État, je commence à me demander si c'est pas la seule solution. Ça fait longtemps qu'il en parle, mais...
Dites-vous bien que le plus grand succès de politique économique qui a été fait, c'est le PGE. Mm-hmm. C'était étonnant que Bercy, brutalement, se mette à être à toute allure à faire 150 milliards de garanties. Ça n'a pas coûté très cher. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. C'est garantir l'épargne. Il faut utiliser l'épargne.
Mais il n'y a pas que sur le vieillissement, d'ailleurs, on le dit aussi pour la transition. On le dit aussi pour la transition que l'État doit jouer un rôle d'assureur, de garantie pour pouvoir financer une partie de la transition d'accès. C'était le premier élément. Le deuxième élément, les arbitrages, j'ai l'impression qu'ils sont déjà faits. Enfin, moi, de ce que j'ai entendu sur les coups de rabot, etc., c'est l'écologie. Enfin, l'écologie paye un lourd tribut en termes de rabot. Oui. Alors même qu'on en a parlé, qu'on a eu une augmentation des retraites qui a suivi peu ou prou, même plus que l'inflation, parce que je crois que c'était 5,3 à l'automne dernier. Donc on voit bien que les arbitrages vont plutôt en faveur des retraités ou des seniors. Et dernier élément, gérontocratie, on parle de ça, c'est aussi la question du risque derrière, la capacité à prendre du risque. Et on sait que c'est un facteur qui aussi crée de la croissance de demain. Donc ça pose plein de questions autour.
Et le rôle de l'État qui pourrait être un assureur justement du risque pris, pas du rendement, mais du risque pris. C'était Jean-Marc Daniel qui me disait à propos justement du vieillissement, aujourd'hui on a un pays qui est un pays en soins palliatifs, c'est le Japon, et on sera bien. Et nous on va passer de l'EHPAD aux soins palliatifs un de ces jours aussi, probablement que les Allemands nous précéderont. Pourquoi vous êtes arrêté en disant, je ne sais plus sur...
Parce que je pense que en fait les 10 ou 20 milliards, ça fait partie de l'actualité aujourd'hui, mais c'est quand même, quand on regarde par rapport aux 500 milliards du budget, en gros, c'est pas non plus la fin du monde.
Certains vont vous dire que c'est de l'austérité quand même. Vous allez voir, aujourd'hui, ça va être arrosé sur l'austérité et la rigueur.
La réalité, c'est que si on veut faire de la décarbonation, si on veut s'occuper des vieux, si on veut être dans l'intelligence artificielle, pas complètement nulle, il nous faut 150 milliards de plus par an. 150 milliards, pas 10, pas 20, 150. 150, il faut bien le trouver quelque part. On va le trouver où? Dans l'épargne des Français. Mais comme on est des vieux qui ont horreur du risque, évidemment il va falloir garantir, plus les rachats d'actions, entre nous c'est quand même pas le truc le plus malin qu'on puisse imaginer, plus les...
Vous imaginez sur les rachats d'actions?
Moi je suis contre les rachats d'actions.
Contre
Je suis pour quoi? Je vais faire mon Attal. Investir, oui, investir, il n'y a que ça qui compte.
Quand on a dit qu'on est contre les rachats d'actions, ça signifie quoi comme choix politique?
Ça signifie de les dissuader. J'ose pas le dire, interdire, parce que je vais être insulté par les gens qui vous écrivent, mais dissuader, des formules beaucoup plus diplomatiques. On va peut-être pousser les gens à ne pas... Il faut que l'argent de notre pays serve par rapport à ces trois transitions, investir. Il n'y a que ça qui compte. Et évidemment, les caisses ne sont pas vides. On va claquer 490 milliards l'année prochaine. Ce n'est pas des caisses vides, ça. Mais
ça, c'est la dépense de l'État dont vous parlez.
Mais on n'a pas le moyen de faire face aux transitions. Il faut faire de l'intelligence artificielle, des EHPAD et de la décarbonation.
Je réagis. C'est vrai qu'on parle, c'est 20 milliards, certains vont appeler ça de l'austérité. Non, simplement, c'est pour corriger les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'on a eu de manière concomitante des mauvaises nouvelles, à savoir que le déficit de 2023 va être plus élevé qu'attendu. Hein.
C'était 4,9 attendu, 4,9, on sera au-delà de 5.
On sera au-delà de 5, donc on part plus haut pour atteindre les 4,4% dans un contexte où la prévision de croissance a elle-même été révisée à la baisse.
Et les recettes 2023 sont revues à la baisse.
Voilà, 1,4 à 1. Donc voilà, c'est simplement corriger le tir pour rester dans la trajectoire budgétaire. Mais ça veut dire qu'effectivement, on n'a pas créé les marges de manœuvre pour faire... on aura besoin encore de faire plus pour se créer les marges de manœuvre pour financer toutes les transitions que l'on doit financer.
On a 2 minutes 40 avant de marquer une pause. L'idée des Allemands, là, lancer un fonds souverain qui d'abord est lancé sur de l'argent public et qui sera un fonds, en fait, un fonds de capitalisation, mais qui ne placera pas l'argent des travailleurs allemands, mais qui placera de l'argent public. Avec objectif, d'ici à 10 ans, d'avoir 200 milliards sous le coude.
Alors, je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, que M. Jospin
a créé un fonds de réserve des
retraites. Avait créé le fonds de réserve des retraites.
99,
qui devait être alimenté par les recettes des privatisations. Il faut 200 milliards pour démarrer le truc, pour que ce soit près sérieux.
Mais non, il ne faut pas 200 pour démarrer, mais l'objectif, c'est à terme d'avoir
ce type d'emprunt. Si
les Allemands mettent 12 milliards d'emprunt public et ils ajoutent 15 milliards d'actifs publics au départ.
Mais nous, on avait fait le calcul. Enfin, il faut beaucoup plus d'argent, mais pour maintenir les retraites et ces collectifs. Donc, il n'y a pas ce débat à la française nunuche qui consiste à dire capitalisation contre répartition. Enfin, tous ces débats sur lesquels qu'on adore et qui servent absolument à rien. Donc, puisque c'est une capitalisation collective, et donc ce fonds de réserve des retraites, c'était une super idée. Lancé par un gouvernement socialiste, donc il n'y avait pas de crime contre la réflexion positive, et il se trouve qu'il a été complètement, détruit progressivement, piqué, l'argent était piqué, il n'a jamais été alimenté, il est aujourd'hui à 21 milliards. Il faut le faire 21, il faut atteindre...
25 ans après, il est à 21,3 milliards, notre fonds de réserve des retraites.
Il faut, on l'a, notre fonds.
Mais il y a un exemple à suivre, Isabelle, là.
C'est très clair, il n'y a pas que l'Allemagne, beaucoup de pays nordiques...
Ils sont vieillissants à côté de nous.
D'accord, mais beaucoup de pays nordiques qu'on ne peut pas taxer d'ultralibéral, etc., ont choisi à un moment donné de mettre une couche par rapport à une retraite de base financée par la répartition, une couche supplémentaire de capitalisation. Et donc oui, bien évidemment que c'est une voie à explorer. Ouais. Sur la base, je pense qu'il faut démontrer par l'exemple que si on avait placé X argent qu'on aurait récupéré au bout de temps, etc., c'est la preuve par l'exemple. Il y a quand même, on a le mécanisme pré-fonds, donc puisqu'on parle de la fonction publique, alors c'est volontaire, mais c'est de la capitalisation. Et puis on a aussi un autre mécanisme, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a certaines primes au niveau des fonctionnaires.
Les RAF.
Voilà, exactement, qui sont investis sur les marchés financiers, etc. Et le conseil d'administration, ce sont les représentants des syndicats qui gèrent. Et ça serait intéressant de les interroger pour savoir s'ils y voient un inconvénient.
Mais Agirc-Arrco, il y a de la capille dans Agirc-Arrco.
Donc c'est simplement, de démystifier le côté qui manque, qui n'est pas égalitaire de cette retraite par capitalisation.
On marque une pause. Ce qui est finalement, on a un peu digressé sur l'actualité économique du jour, mais là, on vient de parler des masses astronomiques. Eh bien, on va revenir au petit rabot traditionnel dans quelques minutes. Après, on s'intéressera à ce que nous raconte le baromètre d'Oxa AJP pour ce mois-ci, tout de suite.